With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dans cet épisode, on discute de certaines expériences masculines du couple hétérosexuel. Mon invité s'appelle Jean-Claude Kaufmann. Cela fait maintenant 30 ans qu'il observe et analyse comme sociologue ce qu'est le couple hétérosexuel aujourd'hui. Son dernier livre, Pas ce soir, est une enquête sur le consentement sexuel en couple. Il montre par exemple qu'un schéma très répandu, c'est celui dans lequel l'homme a beaucoup plus de désirs sexuels que sa conjointe, même si bien sûr la situation inverse existe aussi. Toute la question étant de savoir pourquoi, et comment le couple se débrouille avec ce déséquilibre? Qui finit par se forcer? Qui pense avoir le droit de contraindre l'autre? Qui se tait? Comment est-ce qu'on en parle? Et surtout, pourquoi est-ce que le plus souvent, on n'en parle pas? Pour chacun de ses ouvrages, Jean-Claude Kaufmann lit et accumule des centaines de témoignages d'hommes et de femmes de tous les âges et de tous les milieux sur ce qui a l'air de petit rien, sur ce qui passe pour anecdotique, personnel, pas du tout politique. La façon dont, par exemple, en couple, on s'occupe de son linge, dont on se répartit le travail domestique, sur les petits agacements que chacun garde pour lui ou non. Beaucoup de constats qu'il pose dans ses livres m'intéressent, mais je dois dire que ces analyses me semblent souvent bancales. Or, elles sont largement reprises dans les médias, le plus souvent sans être remises en question. Le ton de cet épisode est donc assez différent des précédents. Je voulais comprendre nos points de désaccord, et vous entendrez qu'ils sont nombreux. Dans plusieurs de ses ouvrages, Jean-Claude Kaufmann élabore ce qu'on appelle des idéotypes masculins, c'est-à-dire des comportements, des attitudes, des positions caractéristiques de la masculinité. Ça veut dire que ce n'est pas des comportements obligatoires, mais des grandes tendances. Des idéotypes comme l'homme enfant, l'homme qui se tait et ne veut pas se prendre la tête. Et avant d'en venir aux questions de désir et de consentement dans les couples installés, on commence par discuter de son ouvrage qui s'appelle « La trame conjugale », publié en 1992, consacré à la gestion du linge dans les couples. Et je commence par lui demander de décrire l'idéal type masculin qu'il appelle l'élève coupable.
L'homme se sent un peu coupable parce qu'il a enregistré les messages, les théories féministes notamment du partage des tâches ménagères. Donc en principe, il est plutôt pour, plus ou moins, avec plus ou moins d'adhésion. Mais sur le grand principe, c'est dans la mise en pratique, avec des variations, hein, il y en a qui font semblant d'être pour et puis qui ne le sont pas du tout, mais c'est dans la mise en pratique que ça va être beaucoup plus compliqué. Pendant 30 ans, j'ai continué mes conférences et j'ai toujours eu la même phrase.
Oui, mais c'est en train de changer.
Oui, et mon éditeur m'a proposé de faire une nouvelle édition il y a 3 ans. Et donc je me suis dit, je vais tout relire pour voir s'il faut que je mette à jour certaines choses. Je n'ai pas changé une virgule du livre, après l'avoir bien relu. Donc on n'y est pas encore du tout à l'égalité du partage des tâches ménagères.
Ça, c'est confirmé par les chiffres.
C'est confirmé par les chiffres, mais il faut comprendre pourquoi.
Alors pourquoi?
C'est absolument essentiel. Et pourquoi? C'est des mécanismes précis, très précis, mais très profonds, et qui mettent en cause les hommes et les femmes, et les relations entre les deux. Donc l'homme, il faut le dire, il n'est pas très motivé par le ménage. Quand même. C'est parce qu'il se sent coupable, il se sent un petit peu obligé d'en faire un petit peu plus. Donc, il va faire un petit effort et il va faire à sa manière. Il va passer le balai, il faut suivre le balai de manière précise. Les gestes du balai,
vous avez regardé ça.
Oui, j'ai suivi.
Ouais.
Et par exemple, quand il passe le balai, il va oublier un peu les coins où il ne va pas passer sous les meubles. Puis c'est bien comme ça, quoi. On ne va pas se prendre la tête. On ne va pas se prendre la tête pour vraiment astiquer à fond, etc. Et c'est là que ça se joue. Alors on me dit, vous vous mettez encore une charge sur les femmes, c'est pas possible. Mais ça se joue beaucoup dans la réaction des femmes face à cette manière de passer le balai. Si cette femme est extrêmement motivée pour le partage, elle doit se faire violence et accepter que ce balai soit passé un petit peu n'importe comment.
Et pourquoi on ne pourrait pas exiger que les hommes apprennent à passer le balai correctement?
Mais non, il n'y a pas une bonne manière. Il n'y a pas une bonne manière. Qu'est-ce que ça veut dire de passer son temps à passer le balai dans les moindres recoins? Est-ce que c'est un idéal de vie? Toutes les conceptions se défendent. Il faut bien comprendre que les femmes n'ont pas raison sur les manières de passer le balai ou de laver le linge, etc. Alors on se dit qu'on a raison parce qu'on fonctionne sur des évidences. J'ai interrogé par exemple les gens sur qu'est-ce que vous repassez et pourquoi vous repassez ceci, pourquoi vous repassez les torchons par exemple. Et la réponse des personnes c'est parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, on a une évidence. Bourdieu dirait un habitus, une évidence incorporée qu'on ne remet pas en question. Ça va se jouer dans cette petite... Ça rejoint le livre sur les agacements. Parce que ce qui explique le partage des tâches, c'est que c'est toujours le plus agacé des deux qui va prendre en charge la tâche pour ne plus être agacé. Le petit problème, c'est que c'est le petit conflit mental entre le schéma idéal qui est dans la tête et la place des choses. Si on voit la poussière sur le meuble dans le coin, on se sent mal. Et si on passe le balai, en enlevant cette poussière, il va y avoir un calme et une sérénité intérieure. On aura remis en cohérence le schéma avec la place des choses. Puis on se dit, c'est pas bien grave, c'est juste un coup de balai. Et l'histoire du couple... Après petit coup de balai, le torchon, ceci, cela, après les enfants, jour après jour, c'est ce petit combat. L'essentiel du partage des tâches ménagères, c'est un combat de l'homme contre lui-même, parce qu'il n'est pas très motivé, hein, donc il faut qu'il se dise qu'il fasse un effort. Et la femme, un combat contre elle-même, parce qu'elle doit accepter de se faire violence pour que ce ne soit pas fait sa manière. Alors j'en reviens enfin à votre question sur l'élève coupable. Donc il est en position d'élève, l'homme, parce que la femme n'arrête pas de lui dire, mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde comment tu as passé le balai, tu as oublié les coins. Donc, il fait un effort mental parce que son automatisme, son « c'est comme ça », lui, c'est arrondi, c'est en oubliant les coins.
Et peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas été socialisés à faire des tâches domestiques, qui ne savent tout simplement pas comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous mettez en évidence aussi, c'est qu'il y a une différence.
Je prends un autre exemple. Le père est là, la maman est partie et il va aller promener l'enfant au square. Il faut qu'il l'habille, il y a un pull là qui traîne par terre avec une tache au coude, il met le pull à l'enfant, et ils partent au square, et l'enfant est tout content parce qu'il a son pull avec la tache, il peut se rouler par terre, il n'y a pas de problème. On joue avec papa, beaucoup. Et ils reviennent, et la maman arrive, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais j'ai relevé un certain nombre de cas où cette maman dit « Mais c'est pas possible, t'as vu comment tu as sorti le môme avec ce truc qui devait aller au
lavage ?» Ok, donc là, on peut se dire, d'accord, peut-être les femmes peuvent baisser leur niveau d'exigence domestique.
C'est essentiel.
Et d'accord. Mais ça, on parle de cas où le travail est fait, où le travail est pris en charge. Alors qu'en fait, ce qui se passe dans la majorité des couples, c'est que ce sont toujours les femmes qui sont en charge du travail domestique. Et les hommes se déchargent sur elles de leur part de travail domestique.
Oui, et bien l'histoire des couples, il faut faire attention les premières semaines, les premiers mois. C'est tout à fait essentiel. Je ne dis pas que c'est la faute des femmes. Je reconnais que la motivation, surtout qu'il y a des tactiques du point de vue masculin.
C'est ça dont je voulais mentionner. Ouais. Je suis tombée sur cette étude de Laura Carpentier-Goffre, qui est doctorante en sociologie, qui, elle, a adressé un répertoire d'inaction des hommes. Oui. Où elle dégage quatre stratégies. En gros, elle dit qu'il y a la stratégie du mauvais élève, oui. On retrouve l'élève coupable. Donc, par exemple, prétendre qu'on ne comprend pas comment fonctionne la machine à laver alors qu'on est ingénieur. Mmh. Bon. La stratégie de l'escargot, qui consiste à faire tout super lentement. Oui. Celle du conflit, c'est-à-dire de provoquer des scènes. Et finalement, l'autre, pour ne pas se disputer, va dire « bon, bah d'accord, je le fais ». Et puis, du découragement, en fait, où à la fin, vu que c'est pas possible de faire la tâche, eh bien, ce sont les femmes qui se retrouvent à prendre en charge la majorité de ces tâches-là. Donc, peut-être, il y a des stratégies.
Oui, l'homme en rajoute, mais pas tous les hommes. Il y a des hommes qui ont vraiment la bonne volonté, mais en restant à leur manière, parce qu'autrement, ça leur coûte mentalement énormément, parce que c'est plus un automatisme. C'est ça qu'il faut comprendre.
Moi, ce que je me suis souvent dit, c'est qu'il y avait un manque de compétences domestiques, en fait. Plein de trucs dont ils n'avaient pas idée, qu'on retrouve dans la cuisine, qu'on retrouve dans l'idée aussi de gérer la maison. d'anticiper
ça, faut pas l'exagérer. Je vois les piles de linge, par exemple. Alors, il y en a de moins en moins, mais quand même, c'est une référence beaucoup plus féminine. Alors là, la stratégie du mauvais élève, c'est l'homme qui en fait exprès de faire des piles tordues, hein, qui crée un agacement particulier et incite la femme à reprendre en charge. À l'époque où il y avait...
Il dit qu'il faut repasser derrière le mec.
Oui, ouais. À l'époque où il y avait un service militaire, une des compétences, c'était pas le fusil, c'était les piles de linge. Hein, et les hommes étaient capables de les faire complètement au carré, comme on disait, donc alignés, empilés, super. Le repassage, par exemple. Les hommes célibataires, aujourd'hui, c'est très léger du point de vue des tâches domestiques, mais ils peuvent devenir des super techniciens du repassage, voire un petit peu maniaques sur les bords. Et c'est extrêmement étrange, parce qu'on se dit là, quand ils vont se mettre en couple, c'est eux qui vont être les plus agacés. Eh bien, même dans ce cas-là, il finit par y avoir un retournement. Là, il faut rentrer dans le détail des petits gestes pour savoir comment ça se passe. Parce que là, normalement, ils auraient dû continuer à prendre en charge cette tâche. L'important, c'est de ne pas dire « tous les hommes sont de mauvaise volonté et de toute manière, ils cherchent à en faire le moins possible ». Il y a une catégorie d'hommes, c'est ça, ils font semblant de faire un petit peu et sans forcer parce qu'ils savent de toute manière que la femme va reprendre en main plus facilement. Mais surtout au début du couple aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui veulent s'impliquer, qui vont trouver 2-3 créneaux où ils vont devenir les spécialistes. Donc ça va devenir leur spécialité, mais du coup ça ne va pas imprimer sur la charge mentale, parce que la charge mentale, elle est surtout dans l'ensemble.
Le fait d'y penser, de l'organisation,
tous les moindres détails, etc. Donc le combat va être très long et très complexe, mais il est subtil, et il ne faut pas chercher un bouc émissaire. Si on cherche un bouc émissaire, on ne va pas avancer, quoi. C'est vraiment essentiel, il faut comprendre les mécanismes. Et des fois, c'est contre soi qu'il faut lutter pour qu'on avance ensemble.
Un autre idéal type que vous avez mis au jour, c'est celle de l'homme-enfant.
Ah oui, alors ça c'est extrêmement...
C'est celui de l'homme-enfant. Oui. Donc c'est dans votre enquête sur les agacements conjugaux. Mmh. Vous écrivez qu'il s'agit d'une des mutations les plus surprenantes de ces dernières décennies, que les hommes sont devenus des sortes d'enfants dans les familles.
Oui, et d'ailleurs les agacements, c'était un petit peu ce qui remontait au sommet du hit parade. C'était presque ça le plus agaçant. Ça paraissait sympathique comme ça, parce qu'il rigolait, il jouait avec les enfants. Mais en fait, la femme, la mère de famille, ne se sentait pas épaulée dans la responsabilité. Et moi, ce que je repère quand j'interroge les hommes, alors l'enquête sur les agacements a quand même été, de ce point de vue-là, inimaginable. Je n'arrivais pas à avoir un seul homme.
Vous n'arriviez pas à recueillir des témoignages d'agacements masculins.
Alors j'ai toujours plus de femmes sur les questions d'intimité, de relations, etc. Mais à ce point-là, j'avais jamais eu. Et j'ai lancé des appels à témoignages en direction des hommes.
Votre appel à témoignage, c'était « Racontez-moi ce qui vous agace dans votre couple. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre change ?» plein des tombereaux de lettres de femmes qui témoignaient, pas d'hommes.
Pas d'hommes. Et les hommes, j'ai réussi à en avoir quelques-uns, ils disaient « Si, il y a plein de choses qui m'agacent, mais je préfère ne pas en parler. » Parce que j'ai peur que ça ouvre un nouveau chapitre de négociation. Et de toute façon, le pire, c'est pas ça, c'est pas les agacements. Et il m'expliquait que le pire, c'était la fatigue mentale de devoir toujours faire davantage, alors qu'ils avaient conscience de faire des efforts qui n'étaient pas reconnus. Donc face à cette fatigue mentale, leur premier réflexe, c'était de tordre la barre dans l'autre sens. Face à un rôle qui demandait d'avancer sans cesse, de développer les exigences.
Donc de réfléchir, de gérer,
d'avoir une organisation, d'ouvrir des nouveaux chapitres de vie, des nouvelles activités.
Des nouveaux projets,
etc. Discuter de la relation, etc. Face à ça, de dire, bon... Petite pause, faut pas se prendre la tête. Alors cette phrase-là, je l'ai entendue.
Phrase typiquement masculine, donc.
Je ne sais combien de fois côté des hommes. Et faut simplement instaurer un climat de bien-vivre, d'amusement, de détente. Et là, ils vont retrouver les enfants. Ils vont retrouver les enfants, c'est-à-dire cette complicité avec les enfants dans le jeu. Alors on va dire, c'est pas compliqué le jeu, c'est plus facile. Donc il y a un jeu de rôle qui s'installe aujourd'hui. Entre une femme qui porte l'autorité dans la famille. Alors, pas le pouvoir. L'autorité et le pouvoir, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'homme garde du pouvoir pour son confort personnel. Il y a de moins en moins de la télé regardée ensemble, mais quand il y a la télé regardée ensemble, c'est lui qui a la zapette dans la main.
C'est lui qui conduit.
C'est
aussi.
Lui qui conduit, etc. Donc, qui va prendre un certain nombre de décisions. Donc, il va
et
avoir...
puis, on parle aussi de pouvoir matériel, en fait, oui, très concret. Dans la plupart des couples hétérosexuels, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes.
Absolument. Ouais. Mais du point de vue de l'autorité, notamment l'autorité par rapport aux enfants, c'est les femmes, les mères de famille, qui vont l'endosser avec la composante de stress et d'angoisse. C'est-à-dire, c'est elle qui va prendre en compte tous les risques possibles pour les enfants, etc.
Et donc, charge mentale maternelle.
Charge mentale maternelle et anxiogène. On reparlera du désir tout à l'heure, mais dans la baisse du désir féminin, ça, c'est un élément énorme, la charge mentale et la charge mentale anxiogène. Comment être disponible pour le désir quand on a ça dans la tête? Alors que du côté des hommes, au contraire, ils vont tordre la barre dans l'autre sens, du côté de l'humour, du jeu, de la rigolade, etc. Ils ont une philosophie de l'existence, du coup, qui est différente. Il faut bien écouter la phrase, moins se prendre la tête. C'est-à-dire...
Oui, mais moi, quand j'entends ça, quand j'entends ces histoires de se prendre la tête, je me dis... On est capable de ne pas se prendre la tête quand il y a quelqu'un d'autre qui se la prend pour vous, en fait.
Bien sûr.
Quand on arrive, quand on vit dans un foyer où tous les détails sont pris en charge.
Ils veulent dire, tu donnes trop d'importance à cette question-là. Vivons sur une autre philosophie qui est une philosophie plus où on va moins avancer, moins développer de nouveaux projets, mais on va essayer d'être bien. Tel que l'on est, dans le concret, comme ça, même si la maison n'est pas très très rangée, même si on n'a pas lancé une nouvelle décoration, l'amélioration du jardin, etc., d'être bien ensemble.
Eux, ils le voient comme ça, en tout cas.
Mais bien sûr, je ne dis pas que c'est eux qui ont raison, je ne juge pas, je ne prends pas parti.
Non, mais c'est intéressant d'entendre les discours.
Mais il faut comprendre que, quand on est une personne, on a une vision de l'existence, et on est sûr que c'est la vérité. C'est logique. Mais le partenaire conjugal, il faut comprendre que c'est un étranger qui va rester un étranger après 20 ans, après 30 ans de vie commune. Il a une autre manière de toucher les objets, il a un autre rythme, il a une autre idée de l'argent, il a une autre philosophie de l'existence. C'est très intriguant parce que dans la conversation de tous les jours, jour après jour, on construit un monde commun. Par exemple, on critique gentiment les amis et la famille. C'est très utile de les critiquer, parce que si eux font mal pour passer leurs vacances ou n'importe quoi, c'est que nous, on a une philosophie commune. Donc, comme on construit ce monde commun tous les jours, on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est la racine de l'agacement, quoi. Parce que quand le geste réapparaît, par exemple, du balai qui oublie les coins ou autre chose, le tube d'antifrice, il y a mille prétextes, on est très surpris de découvrir cette étrangeté et on juge par rapport à ses convictions. On dit « il fait mal ». Oui. Si on dit il fait mal, on est parti pour l'inégalité du partage des tâches, cette mécanique infernale. Il ne fait pas mal, il a une autre conception, porteuse d'une autre philosophie.
Mais parfois, ces conceptions-là, elles ont des conséquences désastreuses. Par exemple, il ne pense pas à prendre rendez-vous pour les enfants chez le pédiatre.
Bien sûr.
Ne sait pas si les enfants sont vaccinés ou pas. Il ne sait pas ce que les enfants mangent. Il ne connaît pas le prénom des instituts.
Bien sûr. Quand il y a une logique de désengagement qui commence, la pente peut s'accélérer dans un désengagement un petit peu généralisé. Et là, j'ai peut-être un petit peu embelli la philosophie des hommes. Derrière, il y a un petit peu, je disais, de fatigue, il y a un petit peu de paresse. Quand ils rentrent chez eux, le chez-soi pour beaucoup d'hommes, c'est vraiment un lieu extrêmement important, un lieu où on se laisse un petit peu aller d'une certaine manière et on reprend son souffle.
Mais dont on n'est pas en charge, dont on n'est pas en responsabilité.
Absolument.
Dont on ne se préoccupe pas.
Mais c'est tout à fait d'accord.
Je me dis, on peut être confortable chez soi quand il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe votre confort émotionnel, physique.
D'accord.
Et on va vouloir sexuel dans la suite.
Il faut impliquer les hommes. Il faut impliquer les hommes.
Enfin, il faut qu'ils s'impliquent.
Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent, mais il faut les aider à s'impliquer. Et pour les aider à s'impliquer, il faut comprendre leur manière de faire, leurs idées. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Il faut y aller avec subtilité, avec des petites tactiques. Faudrait presque être ethnologue dans la maison, prendre un petit carnet, observer le mari ou le compagnon, voir toutes les choses qui l'agacent, les exigences qu'il a. Et à partir de là, comme lui le fait parfois, en faire exprès de faire tordu, d'une certaine manière, de ranger n'importe comment dans le lave-vaisselle. Et vous verrez que du coup, il va reprendre en main cette
chose-là. Oui, mais là, vous voyez, c'est ça qui me paraît fou les propos tenus, c'est qu'on dirait que c'est aux femmes de rééduquer les hommes pour qu'ils soient... Oui, donc en fait, c'est une nouvelle charge. Donc en plus, il faut se taper la charge éducative des hommes avec qui on vit.
Mais oui, mais c'est parce qu'elles sont en première ligne, comme ça, elles ont ce rôle. Donc oui, c'est une charge...
Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se dire... moi, je rêve de ça, en fait, d'un monde où les hommes disent « ça suffit, j'en ai marre d'être un mineur dans mon propre foyer
oui. »
et je décide qu'en fait, maintenant, je suis au courant de comment on fait chaque tâche ménagère, on détermine de comment ça se passe, je suis au courant de ce qui arrive à mes enfants.
C'est pas une majorité, mais il y a des hommes qui le font, plutôt jeunes, qui le font actuellement. Et quand ils ont ces petites avancées, c'est essentiel de les soutenir, de les aider à avancer et pas, par exemple, à un moment dire « oui, mais là, t'as fait n'importe quoi ». Là, faut s'auto-censurer, c'est extrêmement important parce que ces hommes qui essaient d'avancer aujourd'hui, il faut les aider à avancer. C'est ça, ces mécanismes profonds dont je parle. C'est plus confortable de dire « les hommes, c'est de leur faute, ils n'ont pas envie ». Alors là, on a un schéma très simple, très clair, mais qui ne va pas faire avancer les choses.
Un autre idéal type que vous avez nommé, c'est l'homme qui esquive et qui se tait. Vous dites que l'un des traits de comportement typiques des hommes aujourd'hui, c'est de faire ce choix de l'esquive pour nier, pour fuir les problèmes, ou du silence, donc de se replier dans le silence quand des conversations sont provoquées sur l'état de la relation, sur l'organisation, sur comment ça se passe. Voilà.
Oui, voilà, c'est toujours, on va retrouver le même jeu de rôle, d'une certaine manière, autour de cette question de la parole. Alors, c'est pas toutes les paroles, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un bavardage conjugal qui est extrêmement important, c'est le bavardage en côte à côte. On se met d'accord, on commente l'actualité, on va définir un projet de vacances, on va critiquer les amis et la famille, etc. etc. Donc là, on parle beaucoup et c'est pour s'unifier, pour créer une culture commune. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a l'autre type de conversation. Attention, danger. La conversation en face à face.
Prise de tête, donc.
L'attention à l'autre. Oui, et puis ouverture de boîte de Pandore possible. L'attention à l'autre, de ses attentes, ses insatisfactions possibles. On a construit des équilibres que l'on sent peut-être un petit peu fragiles. Et là, on va ouvrir des boîtes qui peuvent casser tout ça. Beaucoup de femmes ont envie d'ouvrir les boîtes pour avoir des moments de conversation, d'attention à l'autre. Et puis, pour avancer, pour réformer les choses, améliorer les choses.
Donc, c'est leur façon de prendre soin de la relation.
Oui, bien sûr, de prendre soin et d'améliorer. Ah. Et pour les hommes, là j'ai dit que les femmes prenaient en compte les risques pour l'enfant et tout ça, mais là les hommes prennent en compte les risques possibles d'une vie moins facile, de nouveaux problèmes,
de moins confortable.
La notion de confort pour les hommes est vraiment essentielle dans le couple. Le chez-soi est une base de confort. Base de confort et de réconfort, quoi, d'une certaine manière, sans trop de prise de tête.
Pour continuer sur cette histoire de silence et de repli, comment ça pourrait s'expliquer historiquement? Comment ça peut s'expliquer par les socialisations féminines et masculines? Par exemple, le fait qu'on apprend, nous, en tant que femmes, à avoir des discussions intimes, à prendre soin des autres, à réfléchir à qu'est-ce que c'est un beau couple, qu'est-ce que c'est une belle relation, comment on s'aime, etc. Mmh. Et c'est des savoirs et des compétences qui ont été moquées et qui ont été dévalorisées
absolument,
dans la société.
Absolument. Alors ça, c'est toute une longue histoire. Même l'histoire dont on s'est incroyablement moqué, du roman sentimental au 19e siècle, même du roman photo dans les années 50. Ah non, ça c'est abominable. Mais c'est pas si abominable que ça, quoi. C'est quand même une éducation avec des stéréotypes, etc. Mais une tentative de rêver à l'amour. Mais on a besoin de l'amour aujourd'hui. On est dans une société très dure, concurrentielle, qui détruit l'estime de soi des personnes. Et la grande utopie, de notre époque, c'est quand même construire des petits mondes qui fonctionnent sur le don de soi, la générosité et la caresse. Sauf qu'ils sont féminins, d'accord, mais justement. Mais c'est pour ça que c'était, je ne vais pas dire que les femmes qui lisaient des romans photos dans les années 50 étaient des révolutionnaires, je ne vais pas exagérer non plus, mais il y avait un élan de notre part qui était moqué de manière totalement injustifiée. Alors, et puis elles ont eu toute l'éducation du Caire, mais ça date depuis des générations, des siècles.
Donc l'éducation du Caire, c'est faut, aussi très concrètement apprendre.
Françoise Héritier explique que dans les premières sociétés, les grandes oppositions symboliques, c'était d'un côté les hommes qui étaient du côté du feu et les femmes du côté des liquides et de l'eau. Ça a construit deux univers symboliques.
Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre le Caire, cette socialisation au Caire? C'est par exemple faire attention à ce que l'autre ressent, se demander ce que l'autre ressent, se demander comment on peut lui faire du bien, se demander comment on peut l'aider, se demander comment on peut en prendre soin, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, etc. Les femmes sont socialisées dans ce sens-là.
Oui. Et ça continue. On l'a vu pendant l'épisode du Covid, les héros en première ligne, il y avait quand même...
Il y avait des héroïnes.
Il y avait beaucoup d'héroïnes, quand même. Il y avait aussi les éboueurs, etc. Mais,
et puis un mot sur comment ça s'est passé à l'intérieur des foyers, parce qu'on a des statistiques là-dessus. En fait, ça pas du tout... changer quoi que ce soit, le fait que les hommes soient à l'intérieur du foyer. C'est-à-dire qu'en fait, c'était toujours les femmes qui se tapaient l'essentiel du travail domestique, mais aussi de réconfort, de confort psychologique de toute la famille, le travail émotionnel.
Mais là-dessus, je vous ai dit, ça fait 30 ans que je dis que on est... Moi, je vais vous faire hurler, je suis désolé, mais je suis persuadé que l'égalité des tâches ménagères, on y arrivera dans plusieurs siècles. Les idées dans la tête, ça va très vite et ça change. Mais il y a des évidences qu'on incorpore, c'est pas du biologique, c'est de l'histoire lente. Il y a une évolution.
Ça, je trouve ça passionnant que vous remettiez ça dans plusieurs de vos livres. Vous appelez ça la sédimentation dans les corps de gestes. Ou aussi, en fait, on est porteur de gestes qui ont une histoire qui nous dépasse.
Oui, ça, c'est un chercheur qui est un petit peu oublié aujourd'hui. C'est le roi Gouron qui parle de
la pyramide.
Il parle de cette pyramide. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouvelles strates de plus en plus pointues qui se surajoutent. Les nouveaux instruments de la culture, aujourd'hui le numérique, etc. qui nous donne l'impression d'entrer dans une nouvelle société et qui reformule un petit peu tout ce qu'il y a en nous. Mais la base reste. La base est là, un petit peu lointaine. Et il faut la contrôler pour qu'elle ne soit pas un petit peu déterminante, qu'elle remonte. Et dans cette base, il y a même la préhistoire. Il y a même la préhistoire animal de l'humanité.
Oui, c'est une théorie qui est intéressante. Donc, on est d'accord qu'on ne parle pas de biologie.
Non, c'est pas de biologie.
Fait qu'on ait des corps qui naissent dans des sociétés déjà construites. On incorpore des gestes qui nous viennent de loin.
Des gestes qui nous viennent vraiment de loin. L'évolution... Je suis désolé, j'ai beaucoup travaillé sur le linge.
Oui.
Eh bien, par exemple, je suis désolé, les femmes, y compris des jeunes femmes aujourd'hui, trient le linge. Avant de le laver de manière différentielle.
Bah oui, parce que sinon... Enfin, moi, je sais ça, je sais pas, ma mère me l'a appris et tout. Mais parce que sinon, on a des vêtements blancs qui deviennent roses.
Je vais défendre les hommes. Ils ont un système incroyablement efficace. Ils mettent tout dans la machine, ils appuient sur le bouton 30 degrés, ça sort, c'est propre.
Ah. Bah oui, mais ça fait regarder...
Pourquoi on fait pas comme ça?
Bah vous avez une belle chemise blanche, là.
Ouais,
Si je l'avais lavée avec mon pull rouge...
Non, 30 degrés, non.
Elle est blanche.
Alors, sauf si c'est un pull vraiment qui déteint. Bah, peut y avoir quelques accidents Mais je prends cet exemple pour.
Et donc, ces gestes-là, comment ça se fait qu'on a ces gestes-là?
J'ai suivi j'ai participé à un sondage, justement, très pointu sur les gestes. L'homme qui s'occupe du lave-linge, dans 40% des cas, sa compagne va aller vérifier par derrière ce qu'il a fait. Parce qu'elle ne lui fait pas confiance.
Ou parce qu'il fait n'importe quoi.
Mais pourquoi vous dites qu'il fait n'importe quoi? Mais là...
Non mais je te donne une hypothèse, je ne sais pas. En fait,
mais
on ne sait pas pourquoi elle va vérifier.
Et souvent, c'est des hommes qui essaient de bien faire. Avec leur idée, ce que je fais est plus simple comme système. Et ça marche. Tout à 30 degrés, ça sort, c'est propre. Puis s'il y a une toute petite tache dans un coin, ce n'est pas bien grave.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon, du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Maintenant qu'on a tout ça en tête, on a comment répartit la charge relationnelle en fait. Qui s'occupe de la relation ? Qui se préoccupe de savoir si elle va bien, si c'est fluide, si c'est un beau couple, tout ça. Qu'on a répété, et ça on l'a dit beaucoup, beaucoup de toi dans l'émission, mais je trouve qu'on le saura jamais assez en fait, à quel point l'essentiel du travail domestique et du travail parental est encore aujourd'hui pris en charge
clair,
par les femmes.
Très clair.
Qu'on a nommé ce schéma relationnel avec des hommes qui veulent pas parler des problèmes, qui les esquivent, etc. On arrive au sujet de votre dernier livre, qui est sur comment ça se passe, la sexualité en couple. Et alors, c'est un ouvrage, moi, qui m'a tour à tour mise très en colère, très intéressée aussi. Je pense qu'on parle pas du même point de vue. Moi, je l'ai lu comme journaliste féministe, en ayant en tête toutes les théories, tous les textes théoriques qui ont été écrits par des féministes, de Christine Delphi, en passant par Colette Guillaumin, par Nicole-Claude Mathieu, donc dans les années 70, mais plus récemment par Manon Garcia, par Camille Fradométri. Enfin, plein de féministes ont écrit sur ces mécanismes de consentement, de désir et tout. Et donc, dans les milieux féministes, on sait que le couple, c'est pas du tout le havre de paix et d'amour. En fait, c'est aussi, et on le répète sans arrêt, que c'est traversé par des rapports de pouvoir, qu'il faut prendre en compte des questions comme les revenus, les différences d'âge. Et donc, avec tout ça bien en tête, on arrive sur les témoignages que vous avez récoltés, non pas sur comment ça se passe du point de vue des pratiques sexuelles, mais comment ça se passe du point de vue du désir, de la gestion des désirs contradictoires et du consentement, en fait. Et vous dites que c'est la première fois que les gens qui vous confient leurs témoignages vous conjurent de tout anonymiser, veulent surtout garder ça secret. Vous dites que c'est un sujet que vous ne soupçonniez pas, qu'il soit autant explosif.
Oui, alors j'en avais une petite idée, mais pas à ce point-là. Pour ce sujet-là, j'ai eu plus de la moitié des témoignages où on m'a demandé de communiquer par email, question-réponse par email, parce qu'il y avait la peur que le conjoint apprenne. Donc il y avait à la fois un désir énorme de parole. J'arrivais plus à arrêter les échanges, quoi. On voulait continuer à se confier pour mieux comprendre, mais avec la hantise que le partenaire conjugal l'apprenne. Donc moi, là, il y a quelque chose. Vous avez parlé de toutes les théories féministes extrêmement importantes. Moi, j'ai pas toutes ces références.
D'ailleurs, vous n'en citez aucune.
Non, parce que moi, ma démarche, c'est une démarche à partir des témoignages.
Okay.
Comment ça se passe concrètement, très précisément, concrètement,
peut-être
dans les couples aujourd'hui.
On dise comment ça se passe très concrètement, ce qu'on sait, même on a des données quantitatives sur comment ça se passe très concrètement. On sait par exemple qu'il y a une immense majorité de femmes en couple qui ont eu des rapports sexuels sans en avoir envie.
Oui, ça c'est très clair.
On sait que les femmes sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à répondre, avoir accepté souvent des rapports sexuels alors qu'elles n'en avaient pas vraiment envie. Mmh. Donc les femmes se forcent ou sont forcées. On sait qu'il y a plus d'une femme sur deux qui déclare avoir simulé l'orgasme et le faire souvent. Et puis, que du côté des hommes, ça s'est tiré de l'enquête de Philippe Brenneau en 2006, qu'une majorité des hommes qui vivent en couple estiment qu'eux, ils ne font pas assez souvent l'amour. Il y en a 80% qui disent « oui, je suis en manque ».
Oui,
voilà. Et ce qu'on sait aussi, et ça, il y a d'autres données ensuite qui sont arrivées, alors qui ne sont pas là des sondages représentatifs, mais qui disent quand même quelque chose de l'urgence d'en parler, de à quel point c'est un problème. Mmh. C'est l'enquête qui a été faite par le collectif féministe Nous Toutes, qui a recueilli près de 100 000 réponses, c'était en février dernier. Donc d'une majorité de femmes. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas les méthodes des quotas, on ne sait pas par classe sociale et tout.
Le livre était déjà imprimé, il devait sortir pendant le Covid.
Mais il y a une convergence quoi.
Absolument,
et en fait, vous tombez sur les mêmes constats. Dans l'enquête de Nous Toutes, parmi les répondantes, il y a 9 femmes sur 10 qui déclarent avoir déjà fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel. Et dans 9 cas sur 10, c'est aussi arrivé plusieurs fois. Donc c'est vraiment quelque chose de très prégnant, dont on parle trop peu.
À tous les degrés de pression.
Oui,
ça va
on va les détailler une par une de pourquoi et tout, mais j'aimerais d'abord qu'on dise c'est quoi en fait la vraie normalité dans les couples hétérosexuels aujourd'hui du point de vue du consentement. Pareil, si on fait des idéotypes, c'est quoi le schéma qui est le plus fréquent en fait?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de normalité, je ne sais pas s'il faut souhaiter...
Pas de normativité, pas du point de vue de ce qui devrait être normal, mais en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment, en fait?
Alors, ce qui se passe, pour l'essentiel, c'est... ça dépend de la temporalité du couple. Il y a le premier temps, qui est extrêmement important, qui est coup de foudre ou pas, c'est plutôt je dirais pas rare, mais ce n'est pas si souvent que ça qu'il y ait le coup de foudre, mais il y a toujours un bouleversement intérieur dans les premiers temps, parce qu'on est deux étrangers et il va y avoir une reformulation mutuelle et on va construire ce monde commun et dans le premier temps tout bouge et chaque journée est différente et chaque journée est une journée différente et on avance dans l'élan de la découverte de l'autre et du désir, l'élan du sentiment et du désir, donc on est emporté d'une certaine manière et à ce moment-là et là, il y a une nouveauté historique. Le désir féminin s'exprime beaucoup plus qu'autrefois aujourd'hui grâce aux féministes. C'est tout à fait clair. Et les jeunes femmes, les jeunes filles ne sont pas du tout en retrait. On se demande même si...
Dépend parce qu'en fait, il y a encore quand même une grosse stigmatisation du fait, par exemple, d'avoir... exprime des besoins sexuels importants, beaucoup d'intérêt pour le sexe et tout. Donc, c'est pas encore complètement réglé,
cette
affaire.
C'est
le stigmate de la salope, ça existe quand même.
Absolument. C'est tout à fait net, mais on voit quand même un changement très net et un désir des femmes d'exprimer le désir, même si c'est compliqué pour elles, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est après. C'est un peu comme les tâches ménagères. Il y a beaucoup d'éléments qui lient le sexe et les tâches ménagères.
Ouais, on va en reparler.
Après, quand c'est le deuxième temps du couple. Alors ça va faire hurler, c'est le temps du confort, d'une certaine manière. On a installé le système de la vie quotidienne et tout roule tout seul, d'une certaine manière. On sait qui on est, on a les repères communs, etc. Et du point de vue de la sexualité, alors moi c'est pas un livre sur la technique, les positions, etc. Mais il y a quelques mots quand même là-dessus. Ce qui s'installe, on va pas dire une routine, ça va être très triste pour ce domaine-là.
Si, oui. Hein,
une chorégraphie, mais c'est toujours la même, d'une certaine manière. Une manière de faire, on a trouvé les prises, les ajustements. On pense du désir et du plaisir partagé. On pense, parce que ce qu'il y a dans la tête de l'un ne correspond pas du tout à ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Donc on n'en parle pas. Comment il peut y avoir consentement si on n'en parle pas? Donc le consentement, il va s'exprimer surtout par les corps. Parfois, il y a un désir masculin qui s'exprime, des fois de manière un petit peu vive, ce n'était pas prévu avant, et des fois c'est pendant la nuit, ou au petit matin, pendant que la partenaire dort, et il y a la main qui s'avance, et qui fait une caresse, mais ça peut être vu comme une agression pour la personne qui reçoit cette caresse. Et là, ce qui va être extrêmement important, c'est la réponse du corps de la femme.
En l'occurrence, si elle est endormie, elle ne peut quand même pas faire grand-chose.
Si elle est endormie, souvent le premier réflexe, ça va être de se retourner, d'être tellement surprise, dérangée, qu'elle va tourner l'épaule et le dos. Et donc ça, c'est quand même un message, mais qui n'est pas reçu comme tel. Alors, ça, c'est extrêmement...
Bon, en parlons-en tout de suite. Ouais. C'est un des trucs où moi, je me suis dit, c'est pas possible d'écrire des choses pareilles dans votre livre. Mais, à quel moment quelqu'un qui vous tourne le dos, quelqu'un qui est endormi, à quel moment est-ce qu'un homme peut croire que ça vaut consentement, en
mais
fait.
Moi,
quelles histoires est-ce qu'il faut se raconter?
Mais comprenez
pour ça.
Que je ne juge pas.
Moi
je
non
ne,
plus.
Je ne défends pas les hommes. Je dis qu'ils ne comprennent pas.
Ils disent qu'ils ne comprennent pas.
Ah oui, il y en a certains qui disent qu'ils ne comprennent
pas. Ils disent qu'ils ne comprennent
pas.
Mais il
faut faire la grande distinction entre ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas, puis que de toute façon ils s'en foutent, et puis qu'ils vont continuer à forcer, et puis qu'il n'y a que leur désir qui compte, et leur désir égoïste, et la femme est l'instrument du plaisir, peut presque être l'instrument masturbatoire du plaisir. Quoi.
Bah, alors, donc parlons-en, ça c'est quand même dans le cas des viols conjugaux, qui sont donc les viols les plus fréquents.
Oui, mais c'est très important de ne pas mélanger les choses.
Alors, on va...
C'est comme les mécanismes pour le travail
viols conjugaux.
Oui.
C'est le viol, un des viols le plus fréquent.
Oui.
Puisque, en fait, dans 9 cas sur 10, une femme violée connaît son agresseur. Oui. Et dans la moitié des cas, il s'agit de son conjoint ou de son ex-conjoint.
La moitié des cas, c'est des proches. Le conjoint, c'est 31%, mais c'est sans doute, dans la réalité, c'est sans doute plus, parce que ce chiffre est basé sur le dépôt de plainte. Et le dépôt de plainte pour viol, on le sait, est difficile, mais le dépôt de plainte pour viol conjugal est encore beaucoup plus difficile.
Bien sûr, ça fait partie des viols qui sont...
C'est un crime complètement impuni.
Complètement sous-déclaré, sur lequel la société dans son ensemble a plein d'idées fausses.
Oui.
Par exemple, là, vous parliez tout à l'heure d'attaques nocturnes, là, ce que ça fait d'être endormi et tout. Eh bien, en octobre 2018, donc déjà un an après MeToo, dans une émission extrêmement populaire qui est donc Touche pas à mon poste, hein, de Cyril Hanouna, il relayait les résultats d'un sondage lancé sur Twitter par Fun Radio. Dans ces termes, Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez ça normal? Faire l'amour à quelqu'un, je mets ça entre guillemets, faire l'amour, quand cette personne dort, c'est un viol. La personne n'est pas capable de donner son consentement. Mais les réactions par rapport à cette question, des chroniqueurs présents trouvaient que c'était tout à fait normal. Après tout, c'est son copain et tout. Donc il y a quand même des croyances hyper fortes sur en fait, la légitimité du conjoint à disposer du corps de l'autre comme bon lui semble, du corps des femmes comme bon lui semble.
C'est très bien de prendre cet exemple précis, quoi. Parce que va falloir qu'on avance et qu'on comprenne comment ça se passe. Là, on est dans un exemple précis. Ou alors, du côté des femmes, c'est très étrange parce que ce qu'elles me racontent, c'est que c'est vécu comme un viol.
C'est un viol, la personne n'est pas en état de donner son consentement.
Déstabilisant, mais en même temps, elles ne vont jamais employer le mot viol. Elles vont même dire petites attaques nocturnes. Quoi. Et la phrase est revenue vraiment, c'était la même, ou petites attaques de nuit, c'est vraiment la même phrase
qui revenait dans leur message pour décrire des faits qui sont qualifiables juridiquement de viol.
Alors que le corps l'avait vécu comme un viol, dans la tête, c'était l'idée de non, il ne faut quand même pas exagérer.
On pourra s'intéresser à comment ça se passe, comment est-ce qu'on compose soi-même avec ce qui nous arrive pour des tas de raisons. Ce serait l'occasion de faire une émission entière, mais comme là, on est là pour parler des hommes, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez, reçu des témoignages d'hommes qui expliquent tout tranquillement faire ces attaques nocturnes. Et dire, donc c'est viol en fait,
plus, c'est très sensuel, etc.
Je vais pas les lire ici, mais vous avez un certain Olivier, par exemple, qui explique que il peut pas faire autrement, qu'en fait, il est sûr qu'elle aime bien ça et tout. Donc je veux dire, moi, en lisant ça, je me dis, c'est incroyable les explications et à quel point certains hommes peuvent s'auto-convaincre que c'est OK, en fait, de faire ça et que c'est, normal. Oui. Et je me dis, au fond, ce qu'il y a au fond de ces comportements-là, c'est quand même la croyance que quand on est marié, quand on est un homme avec une femme, le corps des femmes femme vous est dû.
Mais on n'a jamais parlé de ça. Il va falloir en parler.
Il y a eu des campagnes, par exemple, du collectif féministe contre le viol qui a mené une campagne en 2011.
Mais le viol, quand on parle du viol, l'idée, c'est le viol du violeur anonyme dans un parking, etc. Donc là, il faut parler de cette situation particulière, de ce qui se passe dans les couples avec cette routine et tous ces non-dits. Parce que c'est extrêmement important il y a vraiment des cas, alors pas les cas où les femmes ont le sentiment d'être violées et rentrent en souffrance.
Non, où elles le sont.
Non, mais il y a des fois des cas où elles sentent ça comme une petite agression et où elles vont s'auto-censurer pour ne rien dire. Et même se forcer.
Alors, on va venir à ces cas-là, mais
simuler, quoi.
Juste pour terminer sur les viols conjugaux. Là, on a parlé des viols conjugaux qui ont donc lieu la nuit. Donc, la femme n'est pas en état de se défendre ni de donner son consentement puisqu'elle dort. Et ensuite, vous avez reçu aussi plein de témoignages, c'est la première partie de votre livre, de viols conjugaux qui comprennent des blessures, des coups, des violences, un non qui est très clairement exprimé, etc. Donc ça, c'est une réalité. Oui. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent ça. Oui. Et donc, si beaucoup de femmes vivent ça dans leur couple, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui infligent ça à leur conjointe ou ex-conjointe. Voilà pour les viols conjugaux. Maintenant, on va arriver dans des rapports sexuels qui sont obtenus par la pression du partenaire, avec tout un tas de prétextes, de modes opératoires. Et ça aussi, on le retrouve dans l'enquête Nous Toutes, des femmes qui disent... La moitié des femmes ont déjà entendu des remarques dévalorisantes sur le fait qu'elles n'avaient pas envie d'avoir des rapports sexuels. Oui. Des conjoints qui les traitent de frigides, de coincés, de pas normales, de chiantes, qui leur disent à quoi ça sert d'avoir une copine si tu veux pas baiser.
Le pire, c'est qu'elles les intériorisent, ces critiques.
Bien sûr.
Parce qu'elles se disent que c'est un petit peu la réalité, parce qu'elles se forment une idée de ce qu'est la sexualité dans tous les autres couples, qui doit être extraordinaire, libérée, performante, qui marche à fond. Et très vite, elles culpabilisent. Elles se disent « je ne suis pas normale, c'est de ma faute, donc je ne dis rien et je dois me forcer un peu, voire je dois simuler ». Et ça... ça n'envoie pas des messages pour que l'homme arrête.
Oui,
donc ça, c'est extrêmement important.
Avant d'en arriver au cas où, on va dire, peut-être, ce sont des cas qui existent, où des femmes se forcent, font semblant du début à la fin, font semblant d'avoir envie, font semblant de jouir, etc.
Très souvent, il y a des messages contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a le corps qui envoie un message réflexe, c'est-à-dire de repli,
de
dégoût.
Des femmes qui vous écrivent « je m'accroche au bord de mon lit, comme au bord du gouffre
». Oui, alors là, on est arrivé, là, on s'approche de la ligne rouge.
Des femmes qui envoient, qui disent qu'elles ne sont pas d'accord.
Il faut voir tous les degrés, c'est extrêmement important.
Allons degré par degré, donc il y a les viols conjugaux, ensuite caractérisés avec coups, blessures, pendant la nuit, où des femmes disent non, etc. Ensuite, les cas où les femmes n'ont clairement pas envie, bien que ce ne soit pas verbalisé, mais en fait, ce sont des signes physiques où elles se retournent. Elles ne rendent pas les baisers, elles font les mortes, elles ne bougent pas, etc.
Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, la femme qui reste passive, du coup, pour elle, le message est très clair. Et
alors,
moi,
parlons des hommes.
Le message n'est pas reçu. Il se dit, oui, c'est comme ça, il n'y a pas l'enthousiasme délirant, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est toujours
passé.
Donc
les hommes en face vous disent, elle n'est pas très d'accord, elle n'a pas l'air partante.
C'est pour ça, on est dans l'exemple
même
où il faut aller plus loin dans la parole. Peut-être pas, c'est peut-être pas facile sur le coup, mais par exemple, même le lendemain, éventuellement, dire, bah, dis donc, on est quand même à l'époque MeToo, actuellement. Et alors, hier soir, tu m'as quand même forcé, j'avais pas envie.
Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le nombre, aussi comment vous commentez ça. C'est-à-dire, vous dites, le message n'est pas clair. Quel moment une femme qui se retourne, qui ne participe pas, comment est-ce que ça peut être reçu
Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je constate les faits. Moi, c'est une démarche de vérité. C'est ça ma passion.
Moi aussi, ça m'intéresse.
Et il y a une partie... il y a des femmes qui s'auto-censurent pour ne rien dire, et puis quand il y a quelque chose qui sort, ou par exemple avec leur corps, elles se disent « ça y est, j'ai envoyé le message ». Le message n'est pas reçu. Ce que je pointe...
Il n'est pas accepté.
Le message peut être très bien reçu, mais pas accepté. Il y a des hommes qui n'en ont rien à faire et il n'est pas accepté, qui ne veulent pas entendre les messages, qui ne veulent pas les voir.
Vous-même qui écrivez ça, vous écrivez « le message entre par une oreille et ressort par l'autre ».
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des cas, je les cite dans mon livre, mais c'est des témoignages qui montrent bien. Ce jeune homme, par exemple, ils font l'amour et pleure. Et il lui dit « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et il dit, elle pleure. Hein, donc ça a été quand même fort de sa part. Mais il dit, elle lui dit, quand même, tu n'as pas vu que je n'avais pas envie du tout, que tu m'as forcé. Et là, il tombe des nues. Et depuis, il se renseigne sur MeToo, sur tout ça. Donc, c'est extrêmement...
Moi, ce qui m'interroge, c'est quelle est la culture, quelle est la socialisation, quelles sont les conditions qui permettent à tant d'hommes de
croire... Mais la socialisation, avec MeToo, on rentre dans une nouvelle époque où non, c'est non.
Mais surtout, quand c'est pas oui, c'est non.
Oui, quand c'est pas oui, c'est non. Est-ce que vous croyez, pour les tâches ménagères, j'ai dit qu'il faudra plusieurs siècles, est-ce que vous croyez qu'on va réformer toutes les pratiques en un an? Mais certainement pas, j'allais dire en cinq minutes, mais en un an non plus. Il faudra des générations. Alors, ça peut être défaitiste et désolant, mais non, parce que du coup, on comprend mieux pourquoi ça n'avance pas plus vite.
Mais vous, par exemple, excusez-moi, mais vous avez quand même écrit, vous l'avez dit dans des interviews, vous écrivez « Je me demande si ces quelques « je n'ai pas envie » de la part des femmes sont suffisants. Ces messages faibles ne suffisent pas toujours pour être entendus. « Je n'ai pas envie », c'est quand même pas un message faible. Un corps qui tourne, c'est pas un message faible.
Non, oui, mais je suis désolé. Je constate encore une fois que le message, là, n'est pas
Je pense que là, il y a une divergence, en fait. C'est-à-dire que vous, vous dites, le message n'est pas reçu. C'est-à-dire que les hommes disent, je n'ai pas compris. Et moi, ce que je pense, en fait, je les soupçonne de très bien comprendre.
Mais non, là, faut pas dire les hommes.
Okay.
Là,
faut
pas dire les hommes, parce qu'il y a deux catégories. Là, il y a ceux qui n'ont pas envie de comprendre. Ils n'ont pas envie de... Puis de toute façon, il faut forcer. Et puis, si elles résistent un peu, puis ça serait logique, etc., etc. Donc, ils s'en foutent complètement. Et il y a vraiment... parce que c'est très important de faire la différence entre ces deux catégories d'hommes. Parce que ceux qui ne veulent rien comprendre, il faut les dénoncer, mettre dans la catégorie, je dirais, des agresseurs, etc.
Et il faut les nommer, parce que par exemple...
Nommer...
Même vous, le cas de cet homme, Olivier, qui explique qu'il viole sa femme la nuit, quand même, vous dites tous les hommes ne sont pas comme Olivier, des harceleurs, mais c'est pas un harceleur, c'est un violeur en fait. Vous avez écrit harceleur.
Alors bon, alors là, on prendra le temps de toute une émission sur ce détail, parce que quand dans mon chapitre viol, quand je vois la violence et la perversité des agressions méchantes, j'ai pas envie de mettre dans la même catégorie de quelque chose qui est perçu comme un viol, mais qui dans la tête, faudrait voir, enquêter auprès d'Olivier pour savoir si on lui explique est-ce qu'il est capable de se réformer ou pas. C'est extrêmement important.
Ouais, c'est là où il y a une divergence. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'arrive pas à croire qu'un être humain sincère peut vraiment penser qu'une femme qui ne réagit pas et qui dort peut être d'accord pour avoir un rapport sexuel. On va donc passer en revue les différents modes de pression. Il y a beaucoup de rapports sexuels qui sont exigés de la part des hommes au nom de l'amour. Si tu m'aimais, tu aurais envie de moi. Et là, il y a une incompréhension fondamentale, c'est-à-dire que c'est insupportable pour les femmes d'entendre ça. Dans la mesure où on l'a vu avant avec toutes vos analyses, des actions, des gestes, des activités, des comportements qui seraient véritablement vus comme... étant mu par la volonté de préserver le lien, donc de prendre en charge les tâches domestiques, de s'intéresser à la relation et tout, qu'on fait au nom de l'amour. Ça, les hommes ne le font pas. Par contre, ils exigent des relations sexuelles au nom de l'amour.
Oui, c'est-à-dire, alors là, je me mets toujours dans la position de ces hommes qui ne comprennent pas la baisse du désir féminin. Mais les femmes ne la comprennent pas non plus, cette baisse. Donc, elles culpabilisent et elles s'autocensurent, elles rentrent dans le silence, voire...
Parfois, elles le comprennent. Parfois, elles font des liens avec les tâches domestiques. Une qui vous explique, à la fin de la journée, là, je la cite de mémoire, mais elle vous dit, à la fin de la journée, en fait, c'est une tâche domestique en plus qui est de m'occuper sexuellement de mon mari. C'est-à-dire que je dois vider le lave-vaisselle, m'occuper des enfants et vider mon mari,
Mais même
c'est violent, mais c'est...
Même ces femmes qui expliquent le cœur du processus, qui en ont conscience, vont quand même culpabiliser un petit peu, malgré tout. Parce qu'elles se disent que malgré tout, si elles étaient une femme moderne, normale, elles auraient quand même le désir qu'elles imaginent partout ailleurs. Et en face, l'homme ne comprend pas. cette baisse du désir, et la vie comme un rejet. Alors, de sa personne, des fois, c'est un peu le cas, parce qu'il n'est pas toujours très, très sexy quand il est avachi dans le canapé.
Beaucoup de femmes se plaignent de ça. Elles disent qu'elles ont l'impression qu'elles font partie des meubles maintenant, que leur conjoint ne fait aucun effort pour se rendre désirable.
Oui. Ne fait aucun effort. En plus, du point de vue des pratiques sexuelles, peut-être qu'il est un petit peu centré encore sur la pénétration, etc. Etc. Donc là, il y a des éléments divers qui expliquent. Mais des fois, il y a ce rejet de la personne, mais ils vivent ça aussi comme un rejet, une perte du couple par rapport au début, qui était tout feu, tout flamme, où il y avait le mélange du sentiment et du désir. Et dans leur idée, remettre le désir au centre du couple, ça redynamiserait un petit peu tout ce qui était pétillant dans le couple d'une certaine manière. Ce qui explique, ça c'est quand même ceux qui essaient de résoudre le problème, par exemple par l'infidélité, il y en a quand même un certain nombre, c'est détaillé dans le livre, qui y pensent et qui n'essayent pas, ou d'autres qui y pensent, qui essayent, mais qui ne poursuivent pas, parce que leur rêve un petit peu déçu, ça serait que du point de vue sexuel, ça fonctionne avec leur femme. C'est un petit peu dramatique, parce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution, c'est très très extrêmement compliqué. Il y a de la souffrance des deux côtés, même si elle est plus grande du côté féminin, c'est tout à fait évident. Mais il y a beaucoup d'hommes qui expliquent que leur frustration, c'est pas uniquement du point de vue de la jouissance personnelle, c'est un petit peu du deuil d'un autre fonctionnement du coup. C'est très intrigant parce que
mort de la relation que
du mort de la relation. Alors
qu'on n'a plus de relation sexuelle.
C'est toujours, on en a parlé, les femmes qui sont du côté de la relation, d'enrichir la relation, et autour de cette question du désir, ponctuellement, exceptionnellement, à un moment donné, c'est l'homme qui peut se présenter comme étant en tête de la relation. Alors pour les femmes en face, c'est encore plus inacceptable et encore plus déstabilisant et culpabilisant. Donc elles s'en veulent de ne pas avoir plus de désir pour ce partenaire.
Donc il y a toutes sortes de pressions qui sont faites. Tu n'es pas normal, les autres couples le font. Si tu m'aimais vraiment, tu aurais envie d'avoir des relations sexuelles, etc. Et puis après, il y a cette culpabilité que vous avez, dont vous avez parlé plusieurs fois, qui vient aussi d'un discours sur la libération sexuelle, hein, qui est un espèce des effets pervers du discours sur la soi-disant libération sexuelle qu'il y aurait eu dans les années 70. C'est-à-dire, si je suis une femme libérée, mon devoir est en plus d'être toujours partant, d'avoir du désir, d'avoir des idées, de le faire avec entrain, etc. C'est ce que des féministes, Clémentine Gallo et Caroline Michel, qui ont sorti un livre dessus, appellent la charge sexuelle. C'est-à-dire que non seulement les femmes se tapent la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge relationnelle, parentale, etc., mais en plus une charge sexuelle, c'est-à-dire où elles sont garantes du bon fonctionnement sexuel de leur couple et de résoudre ça et de se sentir responsables, en fait. Et donc peuvent s'auto-culpabiliser de pas avoir envie et donc de se forcer au nom du couple. Parce qu'elle serait garante de la bonne marche du couple et sa bonne santé.
Alors là, encore attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comme on dit, le discours de libération sexuelle a été essentiel. Il ne faut pas revenir à l'époque de Freud, où c'était toute la sexualité.
Non, en revanche, critiquer le discours de libération sexuelle est intéressant. C'est-à-dire de voir à qui ça a bénéficié à la fin.
Absolument, absolument.
De voir les limites de ce discours-là.
Et
de
encore une fois, il y a le discours, les principes qui sont extrêmement importants, mais il faut en même temps une démarche de vérité pour voir comment ça se passe vraiment dans la réalité. Et parce que sinon, on va être malheureux de ne pas atteindre des modèles qui n'existent pas et qui ne font qu'engendrer de la souffrance.
Parce qu'on a l'impression que dans tous les autres couples, ça se passe super bien.
Oui, alors
que
ça, c'est catastrophique.
Donc, du coup, on le répète dans ce podcast, ça ne se passe pas bien.
C'est compliqué. Mais c'est une utopie extraordinaire, le couple, et créer un petit monde d'amour dans cette société si dur, mais c'est pas simple du tout. C'est extrêmement compliqué, et c'est normal qu'il y ait des moments difficiles et qui ne sont pas parfaits. La communication, c'est extrêmement compliqué. C'est très dur de dire les choses. Il faut à la fois toujours essayer de dire davantage, mais en même temps, c'est difficile. la sexualité, c'est pas si simple, et le désir, encore moins l'expression du désir. Il faut arriver à se décontracter par rapport à ça. Pour certains couples, ça va être extrêmement important, la sexualité, pour d'autres, moins. Et si c'est moins...
Il y a une femme qui vous parle de ce ras-le-bol-là, elle dit j'en ai marre, en fait, qu'on dise que c'est hyper important, la sexualité. Peut-être que moi, je suis juste pas très sexuelle et ça m'intéresse pas. Et c'est un discours qui est entendable aussi.
Ah, complètement.
Voilà,
complètement.
De se dire que, chez les autres, ça se passe pas forcément comme ça. Mais bon, face à ce schéma-là, des femmes vous racontent que, par exemple, elles se forcent, ou leur mari les force, et elles s'arrangent pour expédier l'affaire. Elles disent le plus vite possible.
D'où le fait, dans l'enquête Inédine Serbe, qui est absolument étonnant et hallucinant, que les femmes, en moyenne, sont moins favorables aux préliminaires que les hommes. Quoi. Alors, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'elles disent, j'ai envie que ça dure le moins longtemps possible.
Donc, on se débarrasse des préliminaires aussi. Donc là, on voit qu'il y a du travail à faire, quoi, vraiment.
Bon, on a quelques minutes pour évoquer quelques pistes de solutions du fait qu'à la fois c'est un sujet très tabou parce que les couples, à l'intérieur de ces couples, on ne parle pas de ces questions-là. C'est difficile d'aborder ça. Et puis on n'en parle pas entre couples. On n'en parle pas publiquement de ces différences-là.
On fait comme si ça se passait bien.
Ça se passe pas très bien. Est-ce que faire chambre à part, c'est une solution? Ou même pas vivre
ensemble?
Oui,
mais alors le problème, chambre à part, c'est plutôt des seniors qui font ça quand il y a les enfants qui ont libéré une chambre, parce qu'il faut pas habiter à Paris. Il faut avoir la possibilité. C'est pas un rêve pour tout le monde, parce que pour certains, la petite complicité ordinaire dans le lit, la petite conversation du soir, même si les femmes parlent plus sur l'oreiller que les hommes, etc., est importante. Mais là où ça se passe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand j'avais fait l'enquête sur dormir à deux, les femmes m'en parlaient. C'est elles qui sont à l'initiative de la chambre séparée, parce qu'il faut s'inviter pour faire l'amour, quoi. Donc là, c'est basé sur le consentement.
Il y a un homme qui donne ce témoignage-là, qui dit que le fait de faire chambre à part, ça peut donner ça. Un autre qui évoque ce qu'il a créé, qui sont des espaces de lune de miel pour se retrouver, etc. Mais bon, ce qui a l'air quand même d'être très efficace, c'est de se parler. Sauf que se parler de ça, c'est pas évident, mais ça, c'est la seule solution en réalité.
C'est la seule solution. Alors ça, tous les conseillers conjugaux vont dire, faut parler davantage. Mais là encore, en faisant attention au modèle de perfection, ça serait facile de parler, et on pourrait tout déballer comme ça. Non, c'est difficile. Et ce qui est important, c'est de savoir, quand on a parlé un peu, on a obtenu une grande victoire, parce qu'on a enclenché une logique de conversation. On va dire, moi quand je veux dire non, c'est non. Oui, chez les jeunes aujourd'hui, ça peut commencer comme ça, une relation, dans les premières rencontres, avec une théorie MeToo, je dirais. Quand c'est non, c'est non.
Et quand on est encore une fois en position matérielle de le faire.
Oui, en position matérielle de le faire, etc. Et c'est pas pour tout le monde. Je dis, ça peut se faire, mais c'est pas si simple que ça. Mais dans la plupart des cas, c'est plus compliqué que ça. Il faut pas se dire, dans mon couple, j'y arrive pas à parler. Il faut trouver souvent des astuces, des occasions, des contextes.
Conseiller s'il y a les moyens et d'aller voir des thérapeutes, en fait, de couple.
Oui, ou alors, par exemple, déjà, avant le thérapeute, en parler aux copains ou aux copines. Ne pas raconter des fables que ça se passe super chez soi. Parce que quand, et surtout si ça se dégrade dans la relation, on n'aura pas l'appui des confidents pour nous aider à...
Il faut dire comment ça se passe.
Voilà, il faut dire comment ça se passe. Et à ce moment-là, la parole se libérera dans les groupes de confidents, quoi.
Bon. Moi, à la fin donc je trouve ces sujets passionnants. On a fait que les effleurer. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas le temps de dire. Mais c'est vrai que moi, qui ai relu là une petite dizaine de vos ouvrages pour préparer l'émission, le tableau que s'adresse en fait de l'état du couple hétérosexuel aujourd'hui me paraît tragique, très triste.
Mais le couple est très fragile aujourd'hui. Il ne tient que par le couple parental, hein, parce que c'est plus commode. On peut élever son enfant tout seul, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même plus commode d'être à deux. Et puis dès que l'enfant arrive, il médiatise. Le couple conjugal disparaît. D'ailleurs, la question du désir va baisser d'un cran aussitôt avec l'arrivée de l'enfant. Donc ça devient plus facile, parce qu'on devient l'équipe autour de l'enfant. Donc ça devient plus facile. Le couple conjugal est dépassé par le couple parental, et c'est ça qui finalement tient le couple. Donc il est à la fois extrêmement difficile, extrêmement fragile. Il y a beaucoup de ruptures conjugales. Mais en même temps, ça reste un rêve aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau rôle du conjoint. C'est d'être le thérapeute à domicile, celui qui remonte le moral, qui remonte l'estime de soi quand ça fonctionne bien.
Donc c'est le coach plutôt que le thérapeute.
C'est un coach, oui, quand ça se passe bien, parce qu'il y a l'inverse qui est le pervers narcissique, hein, qui au contraire bascule dans l'autre sens.
Vous avez fait des travaux, ouais, non pas sur les pervers narcissiques, mais sur les couples pièges, les couples où les gens sont très malheureux.
Oui.
Bon, je mettrai toutes les références de cette conversation dans l'article qui accompagne l'émission. J'ai une dernière question à vous poser, qui est une question rituelle dans cette émission, qui est celle de l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditeurs, aux auditrices.
Alors bon, ça va peut-être pas enthousiasmer tout le monde. C'est un livre de poèmes d'un poète que sans doute beaucoup de personnes ne connaissent pas. Au ton de grands sons, fin du XIVe siècle. C'est un poète extrêmement important, c'est l'inventeur des poèmes de la Saint-Valentin. Vous allez dire, oh non, Saint-Valentin, pas envie d'en entendre parler. Il faut connaître la vraie histoire de la Saint-Valentin.
Vous avez consacré un livre à ce sujet-là.
J'ai consacré un livre, qui est quelque chose d'incroyable. 2000 ans, jusqu'au 19e siècle, d'histoire d'insurrection amoureuse contre l'ordre établi et qui va dans le sens des femmes. C'est le premier poète, Otto de Granson, de la Saint-Valentin, hein, qui lance les poèmes de la Saint-Valentin, un peu contre la tradition des rituels qui précédaient la Saint-Valentin, qui étaient les cérémonies de l'ours en février, organisées autour de viols de femmes. Hein, c'était des rituels qui toléraient le viol des femmes, qui les encourageaient. C'était des jeux, les hommes mettaient des peaux d'ours et attrapaient des femmes pour les entraîner dans ce qu'ils appelaient leur tanière et les violer. Et Otton de Granson, qui est un héritier de la poésie courtoise du XIIe siècle, et qui annonce ce que va devenir le romantisme au XIXe, c'est donc un poète vraiment important. Il inaugure une tradition complètement nouvelle, qui est un rôle complètement respectueux de l'homme, qui va faire une démarche poétique pour faire la cour à sa dame. Quoi. C'est une rupture absolument considérable, qui va se développer ensuite plutôt en Angleterre. Et puis alors, il faudrait raconter toute l'histoire après, au 19e siècle, ça arrive aux États-Unis, cette Saint-Valentin, ça va devenir une fête commerciale, etc. Et on la rejette aujourd'hui. C'est trop dommage d'avoir perdu tout ce que ça nous avait apporté. L'œuvre d'art, c'est un poète qui, à la cour de Charles VI, qui essaie de mettre en place un virage absolument considérable dans le comportement de séduction des hommes vis-à-vis des femmes.
Merci Jean-Claude Kaufmann.
C'est moi qui vous remercie.
En sortant de cette heure et demie d'enregistrement, mais j'étais perplexe. Je regrettais déjà de ne pas avoir eu la présence d'esprit, de poser telle ou telle question, de faire telle ou telle répartie, telle ou telle remarque, mais je vais vous épargner la liste complète de mes regrets. Je retiens quand même trois idées. 1. On a encore collectivement un vrai énorme problème avec le consentement sexuel. 2. Dans nos couples, on obéit parfois à des schémas de relations qui nous dépassent et qui ne tiennent pas qu'à nos névroses infantiles, aux relations avec nos parents, à des manques individuels, mais bien aux différences de socialisation entre hommes et femmes et à la façon dont est pour l'instant structurée la société. Et 3, le fait que les personnes en couple n'aient au bout d'un moment presque pas ou plus du tout de relations sexuelles, en fait c'est pas anormal, c'est la situation la plus commune. Sauf que c'est encore tabou, que souvent les partenaires n'osent pas en parler, ni entre eux, ni à qui que ce soit. Alors que parler et s'écouter, et c'est tout ce qu'on a pour se sentir moins seul et peut-être espérer trouver des solutions. Voilà, c'était le 63e épisode des Couilles sur la table. Je suis encore plus curieuse que d'habitude de savoir ce que cet épisode vous inspire. Vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux ou bien m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Je tiens à remercier trois camarades féministes, Sarah Benichou, Manon Garcia et Camille Froide-Vométry, pour leurs remarques, éclairages et réflexions qui m'ont grandement aidée à préparer cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références des chiffres, livres, statistiques et des rapports que nous citons dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. La prise de son a été assurée par Mathieu Thévenon, la réalisation par Thomas Plé et Quentin Bresson, et l'édition par Camille Regache. Moi, ça m'encourage encore plus
cette discussion à approfondir bientôt toutes ces questions qu'on a tout juste commencé à effleurer sur l'amour, les relations, la communication, les rapports de force, le pouvoir, le soin, etc. Mais je vous en dirai plus bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste ? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter ? Comment vivre avec ? Et les agresseurs ? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs ? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.